franceinter.fr.
Proxima B, retenez bien son nom parce que c'est une exoplanète qui a le vent scientifique en poupe depuis l'annonce de sa découverte il y a 2 mois et une cinquantaine de publications depuis partout dans le monde qui tentent de la caractériser, de la cerner ou même de la réfuter. Pourquoi cette exoplanète plutôt que l'une des 3533 autres connues à l'heure actuelle attire autant l'attention? Eh bien, on en parle avec vous, Philippe Hénarejos. Bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, c'est Olivier Mouzis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'astrophysique à l'université d'Aix-Marseille et co-auteur d'une étude sur l'habitabilité de Proxima B. Alors Philippe, comment on explique cet engouement pour Proxima B depuis 2 mois, là maintenant?
C'est assez naturel, parce que c'est une planète qui est très intéressante pour une chose, pour une raison, c'est que c'est la plus proche. Et le fait que ce soit la plus proche...
De nous.
Oui. La plus proche de nous. Et en plus, c'est une planète qui semble, par sa masse, puisque c'est la seule information que nous ayons en dehors de sa période, on sait qu'elle tourne un peu plus de 11 jours autour de son étoile, et on connaît à peu près sa masse, avec des marges d'erreur quand même, mais sa masse nous montre qu'elle est probablement quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une planète terrestre. Olivier Mouzis nous en parlera peut-être, puisque lui pense éventuellement que ça peut être une planète océan, donc il y a quand même une incertitude, mais en tout cas, c'est la plus proche et c'est une des plus ressemblante à la Terre. Et donc ça nous amène à la question suivante, quand est-ce qu'on va pouvoir l'étudier? Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir plus d'infos que simplement sa masse et sa période? Et le fait qu'elle soit plus proche, eh bien, ça laisse entrevoir un bon espoir pour que dans 10 ans, peut-être moins, puisqu'il y a des gros gros télescopes qui sont en train de se construire, ou il y a des projets qui sont là, on aura peut-être des instruments pour soutirer plus d'informations à cette planète et voir si éventuellement elle ressemble à et effectivement à la nôtre, ou si c'est autre chose. Mais en tout cas, quelle que soit l'information qu'on en tirera, ça sera très important pour la connaissance des planètes. Et donc, c'est pour ça que tout le monde s'excite.
Olivier Mouzis, on va vous demander confirmation. C'est cette question de l'habitabilité qui est excitante avec Proxima B?
Absolument. Donc, je rejoins ce que dit Jérôme, c'est-à-dire que...
Philippe.
Ce qu'il y a d'intéressant dans cette... Philippe, pardon, excuse-moi. Donc, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'en fait, on s'est attaqué à une planète qui orbite l'étoile la plus proche de notre système planétaire. Cette planète a une particularité, c'est qu'elle est située à un dixième de la distance de Mercure au Soleil dans notre système solaire. Ça veut dire que si l'étoile Proxima du Centaure avait des caractéristiques analogues à celles du Soleil, cette planète serait complètement grillée, ce serait un barbecue. Or, coup de chance pour nous, c'est une naine rouge, cette étoile. Donc c'est une étoile qui a une activité, une luminosité qui est beaucoup plus faible que celle de notre Soleil. Et du coup, à la distance à laquelle elle se situe à l'étoile, c'est-à-dire 0,05 fois la distance Terre-Soleil, à cette distance, si on avait une planète de type terrestre avec une atmosphère qui faisait 1 bar de pression au sol, comme c'est le cas pour la Terre, l'eau serait liquide. Donc cette planète est dans la zone d'habitabilité. Alors nous on était plus loin, c'est-à-dire qu'avec mes deux collègues marseillais, nous avons travaillé sur les gammes de planètes qui étaient compatibles avec la mesure de masse. Et nous avons obtenu un large éventail de résultats, c'est-à-dire qu'on a pu montrer qu'une planète de type Mercure, c'est-à-dire une planète qui avait un noyau qui était extrêmement important par rapport au reste de la planète, un noyau qui domine la masse de la planète, était compatible avec les observations. Ça, c'était un cas extrême. L'autre cas extrême, c'est le cas que vous avez tous mentionné, c'est-à-dire que on pourrait envisager l'existence d'une planète océan, c'est-à-dire un énorme océan global qui recouvre la planète. Et un peu comme dans le film de science-fiction Waterworld avec Kevin Costner, c'est exactement le même genre d'image.
Mais ce qui est quand même fou, c'est que vous faites beaucoup, beaucoup de suppositions avec vos collègues et du monde entier, alors que certains papiers réfutent complètement Proxima B.
Alors, donc, il y a plus de gens qui acceptent la mesure que des gens qui réfutent. À titre personnel, je ne suis pas un spécialiste des mesures de vitesse radiale, mais j'ai pu discuter autour de moi avec des collègues qui étaient des spécialistes du domaine, et les gens, pour la plupart, croient en cette détection. Il y a vraiment une détection. Je pense qu'elle sera confirmée dans les mois qui viendront.
Ouais.
La tendance est plus à confirmer la détection que de la remettre en cause.
Philippe Hénarejos, justement, un télescope sera spécialement dédié à cette exoplanète, a priori?
Alors c'est dans la queue de comètes qui suit cette annonce de découverte. Là, il y a quelques jours, je crois que c'était hier même ou avant-hier, j'ai vu une annonce d'un projet de télescope spatial pour faire la photo de cette planète, parce qu'effectivement, si on croit à cette mesure, et comme le disait Olivier Mouzis, on a toutes les raisons d'y croire, même s'il y a toujours une place pour le doute, et même s'il est bien de la confirmer, ce qui va être intéressant, c'est de voir cette planète.
Photo directe alors.
Photo.
Hein,
Alors, ça sera un point, comme quand vous regardez à l'œil nu Vénus dans le ciel, ce sera un point. Mais ce point très lumineux pourra donner aux scientifiques des informations complémentaires, c'est-à-dire la température, peut-être des histoires de vitesse de rotation sur elle-même.
On a déjà une photo d'exoplanète aujourd'hui ou pas ?
Non. De cette d'exoplanète. Oui, on a des photos d'exoplanètes, mais ce sont des cas très particuliers. Ce sont des exoplanètes généralement géantes, beaucoup plus grosses que Jupiter, qui tournent très loin de leur étoile. Il y a quelques images d'étoiles, de planètes géantes comme Jupiter qui sont autour d'étoiles type solaire, mais on en a une poignée en fait. Oui. Mais des planètes qu'on suppose terrestres, on n'en a pas.
Olivier Mouzit, toute nouvelle donnée venue d'où qu'elle vienne aujourd'hui est bonne à prendre pour Proxima B en fait, pour affiner les modèles.
Absolument. Donc la chose la plus importante à obtenir et qui est relativement faisable, ce serait de mesurer, comme disait Philippe, le rayon de la planète. Parce que si vous voulez, dans l'éventail des modèles que l'on a trouvés qui étaient compatibles avec la masse de Proxima B, à chaque cas correspond à un rayon particulier. Si on avait une mesure précise du rayon de la planète, on pourrait déjà en déduire quel type d'intérieur correspond à cette mesure de rayon. Donc si on croisait le rayon avec la mesure de masse, on pourrait davantage restreindre le domaine des solutions. Donc ça, c'est pas impossible que ça puisse se mesurer par transit. Bon, il faudra des heures et des heures d'observation, car les chances sont relativement minces, mais elles existent.
Philippe Lénard-Réjos.
Oui, alors je viens de voir justement le titre d'une publication, je ne l'ai pas lu, mais comme quoi les transits, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont observé et cette planète, visiblement, ne transite pas devant son étoile. Donc pour le rayon, il va falloir patienter encore un peu.
Ouais. C'est l'imagerie directe.
Oui.
Olivier Mouzi, on va pouvoir aller un jour vers une exoplanète, selon vous, ou pas ? Ou c'est vraiment technologiquement impossible ?
Écoutez, alors donc, je pense que la technologie peut évoluer de manière à ce qu'un jour l'homme puisse aller dans d'autres systèmes planétaires. Je pense que ça ne sera pas de notre vivant, ça en est certain. Donc vous connaissez comme moi les différents scénarios de science-fiction qui des fois se rapprochent de la réalité. On pourrait y aller, mais je pense que ça sera dans plusieurs bonnes dizaines de générations. Mais en attendant, ce que je recommanderais à tout le monde, c'est d'abord d'explorer notre système solaire, qui est très méconnu. Et on n'a pas fini de répondre à la question, est-ce qu'il y a de la vie dans le système solaire ?
Oui.
Je pense que avant de... C'est bien de regarder bien au-delà, mais ce qui se passe dans notre environnement, il y a des choses incroyables également.
Il y a plein de choses intéressantes, effectivement. Merci beaucoup, Olivier Mouzis. Axel, merci beaucoup.
Merci.
Avant de se quitter, on peut peut-être souhaiter l'anniversaire de Monsieur Hénarejos.
Bon anniversaire, Philippe.
Voilà, merci. C'est aujourd'hui, 13 octobre.
Merci beaucoup.
À bientôt, Philippe, avec Ciel et Espace. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la maladie d'Alzheimer qui se développe plus vite et différemment chez les populations hispaniques. Des chercheurs new-yorkais publient cette découverte aujourd'hui après avoir suivi une cohorte de 2000 malades dans un centre du Texas. Selon leurs résultats, les symptômes psychiques d'Alzheimer, que sont la dépression, l'anxiété ou même les hallucinations, surviennent plus tôt chez les hispaniques que chez les autres patients suivis. Sans apporter de réelles explications à ces différences, ils expliquent que leur compréhension, qu'elle soit génétique ou environnementale, pourrait faire progresser la recherche dans le domaine. Une protéine record vieille de 3,8 millions d'années, c'est une coquille d'œuf d'autruche fossilisée près du site volcanique de l'Aitoli en Tanzanie qui a permis aux chercheurs de décrypter cette séquence d'acides aminés la plus ancienne à ce jour. Bien plus résistante au temps que l'ADN, les protéines trouvées dans les restes de matière organique peuvent nous renseigner sur l'alimentation et même indirectement l'environnement dans lequel ont évoluer ces autruches. Et puis les bourdons sont ingénieux et savent transmettre leurs découvertes à leurs congénères. Des chercheurs londoniens ont mis une centaine de bourdons devant une fausse fleur gorgée de nectar et dissimulée sous une plaque en verre. Le seul moyen de l'atteindre était de tirer sur une petite ficelle pour faire sortir la fleur de sa cachette. Et bien après un entraînement, 60% des bourdons se sont montrés capables de réaliser cette tâche et même de transmettre leur technique à plus de 50% de leurs congénères. Une étude qui démontre que les colonies de bourdons ont une intelligence sociale transmissible et c'est une première chez les insectes. De quoi nous donner le moral. La vidéo étonnante est à voir sur le Facebook de La Tête au Carré.